Creation on Air.
Parfois, le désir rend fou, comme la soifée qui, dans la chaleur accablante du désert et l'air chauffé à blanc, voit une plaque mi-eau, mi-plomb, miroiter et reculer à chaque pas. L'eau ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Le désir se laisse-t-il capturer ou dompter? Comment mettre en cage un mirage? Ce soir, rencontre avec celle qui a su mettre en boîte des rêves de sable et d'eau et les rapporter 24 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.
J'ai toujours aimé les Pégases, parce qu'ils étaient libres.
Ils ont des ailes.
Ils peuvent s'envoler. La légende du Pégase m'a toujours fascinée. Pour un pays où il n'y a pas d'eau, chaque fois que le Pégase touchait le sol, une source jaillissait. Donc cette légende a été la base de beaucoup de mes inspirations.
Leïla Machari, dessinez-moi vos rêves.
Moi, ce qui me faisait rêver, c'est le rêve en lui-même. C'est-à-dire, j'étais une rêveuse. Quand je m'ennuyais, je m'échappais par le rêve. Je m'inventais des histoires. J'ai toujours pensé que la réalité était une chose difficile à accepter. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on pouvait rentrer, d'une certaine façon, dans la réalité. Et ce métier m'a apporté le chemin. C'est-à-dire, il m'a fait toucher la réalité pour la mettre en valeur. Et, en même temps, jouer avec le rêve, pour faire rêver les gens de l'objet. On rêve l'objet. C'est-à-dire qu'une vitrine, c'est fait pour faire rêver. Il faut donc sublimer l'objet au point de le mettre sur un piédestal, comme s'il était un trésor. Bon, ben ça, c'est une façon de voir les choses. Mais ça me convenait. J'étais tout à fait heureuse.
Aux vitres, aux givres, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite. Il faut partir de cette exclamation de René Char pour saisir l'essence de la vitrine, car la vitrine ne se comprend que par opposition à la rue. Sèche, lumineuse et immobile, elle est l'antithèse de la rue passante, sombre et humide. Le passant, c'est à lui qu'elle s'adresse bien sûr, mais en quels termes? Curieux, flâneur, badaud, lèche-vitrine. L'homme de la rue ne fait que passer. Et en passant, il passe inaperçu. Mais il aperçoit. C'est un regard anonyme auquel rien n'échappe, bien qu'il effleure choses et gens sans s'attarder nulle part. Seule la vitrine l'arrête. Gros papillon de nuit, gris et pelucheux, il reste collé à la vitre éblouissante, faussement ouverte devant lui, comme une caverne ensoleillée, mais interdite. Car telle est la vitrine. La fenêtre s'ouvre sur le dehors pour laisser pénétrer dans la maison l'air et la lumière et pour permettre aux habitants de voir ce qui se passe à l'extérieur. La vitrine fait l'inverse. Elle s'ouvre sur l'intérieur pour laisser voir non ce qui se passe à l'intérieur, mais justement qu'il ne s'y passe rien. On n'entre pas. Le curieux imprudent heurte du front l'invisible paroi comme un oiseau s'écrase sur une baie trop limpide. On ne touche pas. L'objet exposé en vitrine est d'autant plus visible qu'il est intangible, silencieux et inodore. En vérité, il n'a qu'une demi-existence, celle de la pure apparence.
C'est dans la précarité. C'est des choses qu'il est difficile de recommencer parce qu'il faut retrouver tous les ingrédients quand il s'agit de petits cailloux. Et quand il s'agit de... Là, par exemple, j'ai une vague. Une vague qui est en marbre. Je l'avais fait faire par un sculpteur. Et à l'époque, j'étais complètement folle. Je voulais faire une vague en marbre parce qu'on a lancé un tapis de bain qui s'appelle Hokusai. C'était la vague de Hokusai. Et je m'étais dit, on ne fait rien. Mais on met tout. C'est-à-dire, je voulais lancer une autre colonne. J'ai fait faire un système de vaporisateur dans la rue, devant la vitrine, de façon à ce que les gens reconnaissent le parfum. Et puis, j'ai mis dans la vitrine du sable, un fond de mer, qui était une peinture, et deux tapis de bain qui étaient la vague de Hokusai, qui était imprimée chez nous à Lyon. Et deux bouteilles d'eau de Cologne. On lançait l'eau d'orange verte. Et puis deux maillots posés sur le sable. Et c'est tout. Jean-Louis Dumas est sorti pour voir le décor. Et il me dit, mais Leïla, il n'y a rien. Je dis, oui, mais il y a tout. Je lui fais vaporiser le chien et tout à coup, il éclate de rire et il me dit, c'est formidable, parce que j'ai toujours peur de sa réaction. Je me dis, est-ce que ça va lui plaire? On ne sait jamais. Mes fantasmes à moi, ce n'est pas forcément les fantasmes des autres. Qui me dit que ça va être dans le sens de ce qu'on cherche. Or, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche du rêve, on cherche de l'absolu. Il est difficile de mettre de la philosophie dans une vitrine, vous savez. C'est quand même très abstrait. Mais ça me convenait. Je suis rentrée en 1961 dans la maison Hermès. Je n'ai pas arrêté de dessiner, ni d'inventer, ni de créer. J'ai créé à un moment donné toute une collection de vêtements, par exemple, parce qu'on n'avait plus personne pour faire les vêtements. Donc il fallait s'intégrer à cette maison chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose. Et moi, ça ne me gênait pas du tout, parce que c'était tout ce que j'aimais. C'était la vie, tout simplement.
Annie Baumel, en 1961, je crois, oui. Vous avez dit « Dessinez-moi vos rêves, Leïla ».
C'est vrai, ça a été une parole un peu magique, parce que je me suis dit à ce moment-là, Dessinez-moi vos rêves, ça veut dire quoi? Et Robert Dumas, le père de Jean-Louis Dumas, m'a engagé tout de suite. Tout de suite. En me disant, vous allez travailler avec Madame Baumel, essayez de lui apporter ce qu'elle attend de vous. Et moi, je n'ai rien dans les mains. Si, j'ai mon dessin, j'ai mon imagination, j'ai tout ce qui me faisait, moi, rêver. Mais est-ce que ça pouvait plaire aux autres?
Il y a aussi l'art, parce que vous aviez un bagage artistique des beaux-arts qui était extraordinairement important.
Ah oui, ça c'est très très important pour moi déjà, parce que je ne voulais faire que ça. Mais il s'est trouvé que cette maison a des artisans. Artisans démarrent avec art, l'art de faire. Et quand j'ai commencé à rencontrer les ateliers, j'ai mieux compris l'artisanat. Or, moi, dans mon pays, on a beaucoup d'artisans. Et j'avais commencé déjà à travailler avec eux. Et ils me disaient, oui, mais ça, je ne peux pas le faire parce qu'il faut telle chose. Ça, c'est possible. Et ça, c'est pas possible. Et ben, j'ai eu exactement la même chose ici. Ça, c'est possible. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand il faut retourner un sac et le mettre de l'autre côté, il faut savoir le coudre d'une certaine façon. Donc j'ai appris ça. Et quand j'ai commencé à comprendre l'artisanat, je suis rentré dedans. Et je l'ai conjugué avec l'art. C'est-à-dire que je prenais ce qui était possible de faire avec les mains des artisans, et j'en faisais une composition.
Les plus belles vitrines de Paris sont signées Leila Menchari. Son mariage avec Hermès est à la fois ancien et d'amour. Il repose sur la maîtrise artisanale de deux matériaux nobles, le cuir et la soie. Le cuir relève de la sculpture et habille le cheval et l'homme de cheval. La soie se met au service de la peinture et habille très légèrement la femme. Voilée par un carré Hermès, une femme se couvre d'un paysage, d'un arbre ou d'une brassée de fleurs. Pour l'homme, le thème équestre et voyageur se concrétise dans le bagage, sac souple ou valise. Le ton dominant est la couleur fauve. Et c'est là que se trouve la signature secrète de Leila Menchari, car Hermès lui doit une note africaine fine et profonde. La couleur fauve, c'est celle des bêtes africaines, mais aussi des sables et des pierres du désert. Elle apporte une note de chaleur vivante aux fruits vernissés et aux fleurs minéralisées de ces natures mortes. Mais l'Afrique se rappelle également ici par une allusion infiniment discrète aux souks orientaux. Il n'y a dans les souks ni vitrine, ni passant. La marchandise s'étale à portée de main, invitant chacun à palper, caresser, tâter, faire glisser entre les doigts, élever vers la lumière, approcher des narines. La foule circule, discute, plaisante, cependant que les laines sont effleurées, les grains empoignés, les bijoux manipulés. Les boutiquiers s'offusquent des manières expéditives des touristes étrangers qui ignorent le rituel de l'achat. La politesse des souks veut que l'on s'attarde, bavarde, discute, éventuellement qu'on accepte une tasse de thé à la menthe. L'art de Leila Menchari consiste à transposer dans la profusion des objets exposés cette chaleureuse cohue des souks. Il y a de la générosité et même de l'amitié dans ces ensembles d'une élégance pourtant raffinée.
J'ai travaillé 17 ans avec Annie, et puis après elle est partie, elle nous a quittés. elle a quitté la vie. Et là, je devais travailler sans filet. C'est-à-dire, j'avais plus personne pour me dire « Oui, mais tu devrais faire attention à ça, et ça, et ça, et ça. » Souvent, elle me disait « Ne fais surtout pas les couleurs de ton pays. » Parce que c'est trop agressif. Nous faisions les coloris pour les carrés. On refaisait tous les carrés. Elle me demandait de raffiner les éléments, c'est-à-dire les couleurs, qu'il y ait un système qui permette à la dame élégante de s'offrir un carré qui soit assorti à ce qu'elle porte. Donc il fallait raffiner l'ambiance. Quand Annie me disait « Bon, ben, il faut me trouver une idée avec des singes. » Des singes. Elle était très, très, très surréaliste comme ça. J'adorais les singes. Je me disais, moi, c'est merveilleux. J'avais des documents. J'ai cherché mes documents. J'ai commencé à dessiner les singes. Elle me dit, on va faire un décor avec des singes qui portent des vêtements Hermès. Oui, des vêtements Hermès. Ils étaient complètement naturalisés par Desrolles, qui est un grand, grand naturaliste à Paris. Et on avait donné des peaux d'agneau pour naturaliser les mains et les visages. C'était fabuleux. C'est fabuleux parce que c'était... On rentrait dans le surréalisme. Les yeux étaient des yeux de bête, avec des yeux de singe. Et donc, petit à petit, on les a habillés avec des blouses en mousseline, à jabot, comme au XVIIIe siècle. Tous les pigments, ce qu'on appelait les pigments, c'était des singes peints dans les hôtels particuliers du Marais. Il y en a encore. Et c'était la mode des singes. Donc, je suis rentrée là-dedans. Et on a fait donc des personnages. Je me souviens, il y avait Dooking, le peintre Dooking, qui était un ami d'Annie qui venait nous voir. Et Annie lui disait, veux-tu poser pour un singe? Parce que Leila doit me dessiner un singe. Alors il s'accrochait à une rambarde et il faisait le singe. Et je dessinais. C'était très drôle parce que il y avait une ambiance formidable. Et Annie savait créer cette ambiance. Mais là, il y a un marché derrière ça. Et moi, le commerce a toujours été pour moi quelque chose de suspect. Parce qu'il y a une question d'argent, il y a une question d'intérêt. Bon. Donc, j'ai essayé de m'écarter un petit peu de cette vision. Et petit à petit, grâce à Annie Baumel, je me suis intégrée à un monde qui me paraissait complètement inventé pour moi. Parce qu'Annie avait cette vision surréaliste du décor et elle avait des amis peintres et tout ça, et ils venaient et on pouvait parler peinture. Donc on n'était pas toujours dans le commerce. Par contre, on amenait le commerce dans des situations qui mettaient en valeur les produits. Moi, j'arrivais de Tunisie. J'avais travaillé un petit peu à Paris, comme tous les étudiants. J'étais éblouie par Paris. J'étais éblouie parce que la liberté. L'école des Beaux-Arts était au bord de la Seine, en face du Louvre. C'était l'époque de l'existentialisme. Et je rencontrais Annabelle, Gréco, tout ce monde-là qui était dans le monde de Sartre. J'étais fascinée. On m'a porté sur un plateau, Paris.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère et leurs chansons qui rendent gaies, qui rendent tristes. Filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
Vous parlez de liberté. Liberté par rapport à quoi?
Ah, là, on revient en Tunisie. Parce qu'en Tunisie, les femmes... Je ne vais pas vous raconter le film, mais ce n'était pas évident. Or, j'avais une mère qui était fantastique parce qu'elle a été la première à se dévoiler et à faire des conférences contre le voile en Tunisie. Elle a été très critiquée. C'était avant Bourguiba. Et ensuite, Bourguiba est arrivé. Et d'ailleurs, lorsque je l'ai connu, Bourguiba, je l'ai bien connu, il m'a dit « Ta mère a commencé... Moi, j'ai terminé. » C'est-à-dire, elle avait commencé à enlever le voile. Et lui a donné l'autorisation aux femmes de se dévoiler. Donc, le début de la liberté est très fort. C'était politique, c'était... Et j'avais un père merveilleux qui avait un culte pour la liberté. Ce qui fait que j'ai pu petit à petit acquérir une forme de liberté. Et mon rêve, c'était traverser la Méditerranée. Dessiner, quand j'ai rencontré le dessin, ça a été la liberté totale. Par exemple, ces pierres de désert, ces roses de sable que j'ai fait ramener de Tunisie, quand je les dessine, j'ai une structure tellurique, intéressante. J'ai beaucoup de bonheur. Parce que ça a été fait dans du sable, avec une composition chimique de la nature. Et c'était merveilleux pour moi de penser que c'était de l'urine de chameau. Tout était devenu possible. Rien n'était banal. On pouvait creuser. Et on avait toujours de l'or. Donc, pour moi... La nature a été une source d'inspiration immense parce que tout dans la nature correspond à la vie. Ça, c'est de l'urine de chameau, mais on fait des bijoux avec ça. Vous voyez, le passage est fascinant parce que vous pouvez faire des bijoux avec n'importe quoi.
j'adorais la nature, je vivais dans la nature. D'abord parce que mon pays est bordé de la Méditerranée. Il a des montagnes, il a des rivières. C'est un petit pays, mais qui est très riche. Et à l'époque, nous allions chez des oncles qui avaient des situations de caïds, de gens connus, et qui étaient nommés d'une ville à une autre, et on passait nos vacances chez eux. Et quand j'allais chez mon oncle Abdelaziz, je passais des vacances avec mes cousins, fantastiques. On courait dans les champs, on allait cueillir des fleurs de champ. Il y a beaucoup de fleurs de champ en Tunisie en printemps. On allait chez les Bédouins, on buvait du lait de chèvre, on goûtait à tout. Et alors ce qui fait que la nature a été la base de mon éducation. La mer, elle m'a porté. La mère m'a porté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant et si bien que mes parents avaient loué une maison à Hammamet, en Tunisie. Et c'était vraiment l'endroit que j'adorais. Parce que le golfe de Hammamet était un golfe unique à l'époque. Maintenant, ça a beaucoup changé. Mais il n'y avait rien, il n'y avait personne. Tous les matins, je me sauvais. J'étais comme un garçon manqué, hein. De toute façon, on ne savait même pas si j'étais un garçon ou une fille. J'étais comme une sauvage. Et puis, le golfe partait tout le long du rivage comme une grande anse, immense et vide, et bleue. Et c'était, pour moi, l'éternité. J'allais nager, j'adorais nager, j'ai été championne après de natation, etc. etc. Mais enfin, je nageais comme un poisson dans l'eau. J'étais vraiment portée par la mer. J'allais pêcher, je pêchais des petites crevettes, des petits poissons. Je mangeais des algues. Tout ce qui était marin pour moi était une source de vie. Dans ce golfe, c'était bordé par des vergers. Et les vergers étaient pleins de cactus comme barrière pour séparer les jardins, dont un m'a attiré parce qu'il y avait comme des petits escaliers en pierre. Et je me suis dit, s'il y a des escaliers, c'est qu'on peut monter. J'ai grimpé les escaliers et je suis arrivée sur une petite hauteur. Et là, j'ai découvert un bassin, mais un bassin qui n'était pas comme les bassins que je connaissais. C'est un bassin romain qui avait été reconstitué, où il y avait des fleurs qui sortaient de l'eau. J'avais jamais vu des nénuphars. Et c'était la première fois que je voyais des nénuphars. J'étais fascinée par la beauté d'abord de ces fleurs. Et c'était des, maintenant je le sais, des nénuphars bleus du Nil. Et je suis rentrée dans le jardin. J'en suis plus sortie parce que maintenant je vis dans ce jardin. Il y avait une allée qui s'enfonçait dans l'ombre parce qu'on était au bord de la mer. Le soleil tapait dur. On trouvait la fraîcheur de l'ombre. Alors petit à petit, je suis rentrée dans l'ombre. Et là, c'était le bonheur, on dirait le paradis. Parce que j'entendais les oiseaux. J'ai vu des pans qui se baladaient, qui faisaient la roue. J'étais fascinée. Et je suis rentrée davantage. Et petit à petit, je me suis dit, je suis en train de rentrer dans une propriété. Je vais me faire jeter. À ce moment-là, j'ai vu arriver un homme qui avait des yeux bleu, azur. C'était Gene Hanson, un Américain. Gene Hanson était le propriétaire de cet immense jardin. Et il me dit, tu aimes ce jardin? Je dis, oui. Je n'osais même pas parler. Je me suis dit, il va me jeter dehors, il va me... Je suis rentré chez lui, c'est pas bien, ça se fait pas, etc., etc. Et ben, pas du tout. Il me dit, tu peux venir quand tu veux. C'est pour ça que la notion de liberté m'est apparue immense là-bas. Sans vous connaître, tu peux venir quand tu veux, dans le jardin. Ce jardin me paraissait comme un paradis. Il y avait une magie, il y avait des parfums. Tous ces parfums très étranges en même temps. Parce qu'il y avait des fleurs animales. Il y avait des fleurs, des restelodges. Et ce sont des fleurs animales. Quand Gene Hanson, plus tard, a commencé à m'expliquer le jardin, il m'a expliqué ce que c'était que ces fleurs qui avalent les moustiques. En fait, elles ne les avalent pas. Elle rentre dans le pistil et là, il y a comme un goulet et plein de comme du velours. Mais le velours est imbibé d'un poison. Donc l'animal va butiner et puis ensuite, il s'endort. Et la fleur le digère. Et on trouvait des cadavres de petits moustiques, de petits machins, de petits trucs. C'était extraordinaire.
Vous avez dit à un certain moment que ce jardin, c'était votre initiation à la beauté, mais aussi à la culture et à l'intelligence.
Absolument, parce que Jean et Violette, ils ont construit cette maison et ils recevaient des gens tellement intelligents que j'écoutais les conversations en me faisant toute petite. Ils avaient des artistes qui venaient, ils avaient des peintres. Il y a eu des concerts, il y a eu Samson François par exemple, il y a eu Béjart qui est venu donner des récitals de musique, de danse. Et ils ont reçu pratiquement le monde entier. J'aimais ces gens, j'aimais leur culture, j'ai appris beaucoup à travers eux. J'avais des parents très libres qui ont tout admis, puisque Jean et Violette m'ont léguer leur jardin. Donc, ça a été vraiment une histoire, une grande histoire de cœur, quoi. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont initié. C'est ce que j'ai pu apporter chez Hermès.
Ce n'est pas le temps des hommes qui règne sur la mémoire, non plus que le temps des saints. Ces journaliers du temps quotidien qui ne marquent la vie de l'enfant que par le prénom des parents. Mais c'est le temps des quatre grandes divinités du ciel, les saisons. Le souvenir pur n'a pas de date, il a une saison. C'est la saison qui est la marque fondamentale des souvenirs. Quel soleil ou quel vent faisait-il en ce jour mémorable ? Voilà la question qui donne la juste tension de réminiscence. Alors les souvenirs deviennent de grandes images, des images agrandies, agrandissantes. Ils sont associés à l'univers d'une saison qui ne trompe pas et qu'on peut bien appeler la saison totale, reposant dans l'immobilité de la perfection. Saison totale parce que toutes ces images disent la même valeur, parce qu'avec une image particulière, on en possède l'essence. l'hiver, l'automne, le soleil, la rivière d'été sont des racines de saison totale. Ce ne sont pas seulement des spectacles par la vue, ce sont des valeurs d'âme, des valeurs psychologiques directes, immobiles, indestructibles. Vécues dans la mémoire, elles sont toujours bienfaisantes. Ce sont des bienfaits qui demeurent.
Je considère que l'enfant qui vit en nous, qui n'est jamais parti, qui restera jusqu'au bout, c'est lui qui détient la vérité. Parce qu'un enfant est absolu. Et que quand on entend rire un enfant, c'est un éclat de rire qui retentit partout. Il n'a pas de retenue. Pourquoi est-ce qu'il aurait des retenues? Parce qu'il n'a pas appris à se retenir. Donc il est libre. J'ai vu des enfants devant les décors des vitrines, par exemple, crier et frapper sur la vitre parce qu'ils étaient excités. J'avais fait une fois une ferme avec des poules, des œufs, des choses qu'ils ne voient pas en ville. Ils ne voient jamais ça. C'était fantastique. On les a pris en photo et ils étaient hystériques de rire. Et le rire, chez eux, comme le chagrin, est strident, puissant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de retenue, il n'est pas devenu adulte, il est encore très libre, très très libre. Il s'en fout, il peut crier, gueuler, il laisse éclater sa joie.
Les saisons du souvenir sont embellissantes. Quand on va en rêvant au fond de leur simplicité, dans le centre même de leur valeur, les saisons de l'enfance sont des saisons de poète. Ces saisons trouvent le moyen d'être singulières en restant universelles. Elles tournent dans le ciel de l'enfance et marquent chaque enfance de signes ineffaçables. Nos grands souvenirs se logent ainsi dans le zodiaque de la mémoire, d'une mémoire cosmique qui n'a pas besoin des précisions de la mémoire sociale pour être psychologiquement fidèle. C'est la mémoire même de notre appartenance au monde, à un monde commandé par le soleil dominateur. À chaque saison, retentit en nous un des dynamismes de notre entrée dans le monde. La saison ouvre le monde. Des mondes où chaque rêveur voit son être s'épanouir. Et les saisons, pourvues de leur dynamisme premier, sont les saisons de l'enfance. Par la suite, les saisons peuvent tromper, mal se faire, s'imbriquer, s'affadir. Mais elles ne se trompaient jamais de signe dans notre enfance. L'enfance voit le monde illustré, le monde avec ses couleurs premières, ses couleurs vraies. Le grand autrefois que nous revivons en rêvant à nos souvenirs d'enfance est bien le monde de la première fois. Tous les étés de notre enfance témoignent de l'éternel été. Les saisons du souvenir sont éternelles parce qu'elles sont fidèles aux couleurs de la première fois.
Le parfum, c'est évocateur, terriblement. Si vous respirez quelque chose qui vous rappelle votre enfance, tout à coup, vous êtes transporté. Parfum, c'est noble et en même temps, ça vous transporte très très loin. Vous pouvez retomber en enfance rien qu'avec un parfum. Il y a certaines fleurs de champ qui me rappellent mon enfance, moi. Il y a certains airs. Le corps humain a tellement de pouvoir évocateur. Moi, par exemple, quand je prends ma main, j'ai l'impression que je prends la main de mon père. Parce qu'elle me rappelle la main de mon père. et qu'à ce moment-là, je le vois. C'est un monde qui vous apparaît tout à coup. Vous croyez l'avoir oublié, puis tout à coup, il revient, d'un coup. D'un coup. C'est pour ça que je parle de parfum, parce que c'est fort, le parfum. Le parfum, tout à coup, fermez les yeux. Voilà. Ici, dans la maison Hermès, j'ai rencontré ici une famille très ouverte sur le monde, ce qui fait qu'ils m'ont permis de m'exprimer beaucoup. Et j'ai pu m'exprimer jusqu'au bout, parce que pendant des années et des années, je n'ai fait que ça. C'est comme ça que j'ai connu Jean-Louis Dubin, Réna. Réna qui a été merveilleuse. Elle était fine comme l'ambre. Réna, délicate, ferme et absolue. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de tendresse pour Réna. On s'est côtoyés pendant des années. On a travaillé ensemble, on a voyagé ensemble. C'était ma sœur de Méditerranée. On a partagé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Me manque terriblement. Ils étaient deux complémentarités. C'était deux êtres très exceptionnels. Et notre amitié a été vraiment scellée par la Méditerranée, ça c'est certain. Quand j'ai perdu Jean-Louis, quand j'ai perdu Réna, j'étais démembrée. Mais, comme les étoiles dans le ciel, ça laisse des traces. Et une étoile filante laisse toujours des traces derrière elle. Puis après, évidemment, il y a eu Pierre-Alexis et Axel qui ont travaillé énormément aussi, beaucoup, parce que c'est quand même un poids, cette maison. C'est une charge, c'est une responsabilité. La réputation d'une maison, c'est quelque chose de très difficile à maintenir. La qualité, les ateliers, l'esprit des ateliers, c'est tout ça à la fois. Ici, dans la maison Hermès, et ce sont des sujets aussi mythiques. Hein. Le cheval, c'est mythique. Les centaures, c'est mythique. Tout ce qui est les légendes, tout ce qu'on retrouve. L'animalier, pour moi, a toujours été un élément d'inspiration. Les animaux ont toujours une vie qui nous est cachée, qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne les voit pas penser, ils ne disent rien, ils ne parlent pas. Donc nous, on a les bouquins, on a la parole, on a beaucoup de choses pour s'exprimer. Mais les bêtes, c'est un mystère extraordinaire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les bestiaires. Oh oui, j'ai tous les animaux, que ce soit la tortue, ou que ce soit le bœuf, ou que ce soit le lion, que ce soit le... C'est les fables de La Fontaine, quoi. C'est en même temps faire parler des êtres qui ne parlent pas.
Chacun de vos décors, Leïla Benchari, raconte une histoire. Pourquoi est-ce aussi important de raconter ?
Il faut raconter, parce que d'abord, tout le monde aime les histoires. Et que la réalité est banale. Donc, il faut qu'on sublime certaines choses. Il faut qu'on aille dans un monde soit meilleur, soit pire, mais où il se passe des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est toujours à la recherche d'histoires qui donnent des frissons, ou des histoires fantastiques, ou des histoires magiques, mais qui sortent de la réalité. L'inconscient collectif a toutes sortes de langages. Tantôt, on le reconnaît par des histoires qu'on a connues, qu'on nous a racontées souvent, peut-être pas de la même façon. Et puis, parfois, ça change de vêtements tout le temps. Hein, parce que ce sont les légendes. Alors les légendes, évidemment, chacun les traduit à sa façon. Tout ce qui est mythique prend une dimension très large, très, très vaste, et en même temps, tout est possible. Dans le mythe, tout est possible. Les couleurs, c'est comme dans la musique. Vous dire comment ça se fait, ça c'est autre chose. Mais il faut arriver à ce que les choses se marient et qu'elles créent ce confort de l'esprit, une espèce de bien-être de l'âme. C'est très 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 difficile à expliquer. Mais le bien-être de l'harmonie, c'est un état extrêmement privilégié.
Petite fille méditerranéenne, Lily est née et a grandi sur des rivages brûlés par le soleil. Elle y jouait avec des garnements dont elle n'avait à envier ni la rapidité, ni la maigreur. On disait d'elle un garçon manqué. Cela lui déplaisait. Pourquoi manquer? Mais ce rivage tunisien mêlait richement les cultures. Il y avait bien sûr le fond arabe, avec sa pure calligraphie et le grand appel du désert. Et puis la tradition française, implantée depuis des générations. Sa musique, sa cuisine, sa mode. Et aussi un fort parfum venu d'Italie par la Sicile et cette petite île de Pantelleria, aux sources sulfureuses. N'était-ce pas ce qui se cachait au bout de la grève derrière des hauts murs par-dessus lesquels croulaient des masses de feuillage émaillées de fleurs? C'était la propriété d'un riche et mystérieux Américain qu'on disait chimiste, alchimiste, un peu magicien, un peu sorcier. Lily ne cessait de rêver à ce domaine hanté de prestige fantastique. Les années passant, elle grandit et dépassa bientôt les garçons de la tête et des épaules. Il se vengeait en l'appelant l'asperge. C'est à cette époque qu'elle aperçut un jour, sur les marches qui menaient à la mystérieuse propriété, un chat noir aux yeux verts. Il était tranquillement assis et la regardait venir à lui. On aurait dit qu'il attendait. Quand elle ne fut plus qu'à quelques pas, il se leva et monta gravement les marches de l'escalier comme s'il voulait lui montrer le chemin. Elle le suivit. Quel contraste avec la plage brûlante et déserte. Il lui semblait pénétrer dans une forêt vierge formée d'un massif d'arbres et de plantes inconnues et envahissantes. Et il y avait l'odeur, une odeur lourde et complexe formée de mille essences. Le chat avait disparu, comme si sa mission était terminée. Lily s'avançait avec l'angoisse de pénétrer dans un domaine privé et inconnu. « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» La voix tombait du haut d'un citronnier du Mexique, constellé de grappes blanches. Lily sursauta. « C'est le chat, » expliqua-t-elle. « J'ai suivi le chat. » La justification était mince. Sans doute le maître des lieux voulut-il faire mine de l'accepter. « Je suis le chef des odeurs suaves dont parle Flaubert dans Salammbô, » prononça-t-il en se dégageant des feuillages. « Tu sauras qu'on ne s'aventure pas impunément dans mon domaine. »« Comment t'appelles-tu ? » ?»« Lily. Mais les garçons m'appellent l'asperge. »« C'est qu'ils te prennent encore pour l'une des leurs. » Mais sache que tu as revêtu ta nouvelle condition en recevant ici ton initiation parfumée. Soit. Avance donc. Encore un peu. N'aie pas peur. Tu sauras donc que les parfums parviennent de trois sources d'inégale force. Les fleurs, les fruits et les bêtes. Tu quittes la transparence enfantine. Ton domaine puéril était le sel et le sable. L'eau de mer est pureté, mais infécondité, stérilité. Tout cela est proche du néant, dont le désert est le paysage concret. Et te voilà soudain environné d'une profusion de fleurs et de feuilles, ayant chacune leur parfum. Le jasmin, le mimosa, la violette, le basilic, l'œillet, le géranium, le réséda, la verveine, la lavande et cent autres, dont des senteurs spirituelles, légères et de peu de substance. Il faut s'en vaporiser, mais l'effet est éphémère. Ensuite vient la gamme des odeurs fruitées, plus lourdes, plus insistantes, celle de la figue, de la bergamote, du citron. Puis celle des bois et des racines, santal, romarin, myrrhe. Mais il y a enfin le troisième stade, le plus pesant, le plus compromettant. « Vous me faites peur, » dit Lily. « De quelles odeurs terribles voulez-vous parler ?»« Rassure-toi, tu n'en es pas encore là. Un long chemin initiatique te reste à parcourir avant de découvrir le charme morbide des exhalaisons animales. La sueur et le sang, l'odeur spécifique et irremplaçable que dégage chacun d'entre nous et qui est la marque de sa personnalité. Non, on ne sait pas encore en faire des parfums, mais on use, et sans doute abuse-t-on, du musc que nos ancêtres extrayaient des glands d'une espèce de cerf. Et aussi de l'ambre gris, concrétion intestinale fournie par le cachalot. On tremble en imaginant ce que nos chimistes tireront un jour des produits les plus intimes du corps vivant. Franchement, je préfère la mer avec les vents du large, si fort, si pur, dit Lily. Cesse donc de jouer, Lily. À partir de ce jour, tu n'es plus un garçon manqué. Tu es une femme, et il faut que tu assumes cette nouvelle condition. Quant à la mère, je te montrerai un jour ce qu'est en vérité ta mère méditerranée. Dessinez-moi vos rêves. Un portrait de Leïla Menchari par Yorgos Archimandritis. Texte, Michel Tournier, Gaston Bachelard. Nous remercions la Maison Hermès pour son précieux soutien. Prise de son, Laurent Lucas, Pierrick Charles. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Annabelle Brouard.
Creation on Air se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr. Dans un instant, nous allons basculer de l'autre côté de la nuit.